enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors, ce matin, nous allons parler leadership. Je vais vous montrer un certain nombre de principes de la parole de Dieu. À propos du leadership, c'est-à-dire la façon de diriger les autres. On va commencer d'abord par un texte qui est dans Romains chapitre 13. Et je vais vous montrer ce que c'est que le leadership. Et je vais vous montrer que ce qu'on appelle autorité et soumission, il y a quelque chose qui est très important que nous devons apprendre à développer selon les mentalités du royaume. C'est ce qu'on va appeler la loi du respect. Et vous allez découvrir que d'une manière ou d'une autre, d'abord, nous sommes tous des leaders quelque part. Certains, nous sommes des leaders de petite influence. D'autres, nous avons une grande influence et nous dirigeons un certain nombre de personnes. Et vous allez découvrir au travers de cet enseignement un certain nombre de principes qui sont absolument fondamentaux. Commençons par le commencement. Romains 13, verset 1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités existent et ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est pour cela aussi que vous payez des impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. On va lire le verset 7, s'il te plaît.
Okay,
alors, vous savez, ce texte a souvent été utilisé d'ailleurs par les chrétiens pour dire que tous les présidents du monde, tous les rois du monde, tous les ministres du monde, tous ceux qui ont une position d'autorité, eh bien, sont obligatoirement mis là par Dieu. C'est complètement faux. Ce texte n'a jamais dit ça. Mais c'est très clair, on le voit tout de suite. Nous savons que dans l'histoire de ce monde a été marqué par beaucoup de leaders qui étaient mauvais d'ailleurs, et où nous avons eu très peu de bons leaders. Et on voit très bien, par exemple, des gens comme Hitler. Dieu n'a jamais placé Hitler. Si vous n'êtes pas convaincu pour parler de choses beaucoup plus contemporaines, c'est-à-dire de nos jours, regardez ce qui se passe au Zimbabwe et vous me direz si Mugabe était un instrument de Dieu. Voir tout ce qui peut se passer dans ce monde, voir des gens qui sont à 100% contre l'évangile dans certains pays musulmans intégristes,
où
on empêche des gens d'avoir une Bible, c'est pas Dieu qui met de telles personnes, ou alors ça voudrait dire que Dieu travaille contre Dieu, ce qui n'est pas possible. Donc ce texte n'a jamais dit cela. Par contre, ce texte nous dit une chose. C'est que Dieu a voulu un système d'autorité et un système de soumission. Ça, c'est voulu de Dieu pour différentes raisons, comme nous allons le voir. Dans le monde invisible, comme dans le monde visible, il y a toujours un système d'autorité et de soumission. Même dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a une soumission les uns aux autres. Il y a autorité les uns vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la Trinité. Et pourtant, c'est clair, c'est une doctrine biblique. Un seul Dieu révélé en trois personnes. Mais chacun a son rôle. Le Père planifie. Le Fils exécute. Le Saint-Esprit révèle. Et Jésus a dit quelque chose alors qu'il était sur la terre. À propos de la soumission. Lui-même vis-à-vis du Père. Regardons dans Jean chapitre 5 verset 20 et verset 30. On voit comment Jésus était vis-à-vis du Père. Jean 5, 20, il est dit: car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.
Verset 30,
Jésus dira: moi je ne peux rien faire de moi-même, c'est selon ce que j'entends que je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus n'a jamais cherché à faire sa propre volonté, mais il était soumis au Père. Pourquoi est-ce qu'il était soumis au Père? Parce qu'il savait une chose, que le Père l'aimait. Nous en parlerons un peu plus tard à propos de cet aspect de soumission d'autorité, de leadership et de gens qui suivent, de suiveurs. Maintenant, dans le monde invisible, Dieu est l'origine de tout. Et lui-même a créé des puissances invisibles. Et la Bible nous révèle certaines choses, elle ne nous révèle pas énormément de choses, mais un certain nombre de choses à propos de ces puissances invisibles. Elle nous parle de chérubins, de séraphins, d'archanges et d'anges. Et on voit bien qu'il y a des chefs des anges. Archange, littéralement, ça veut dire chef des anges. Et on s'aperçoit que la Bible nous dit qu'il y a une armée des anges. Armée organisée, littéralement. Donc obligatoirement, il y a des supérieurs et entre guillemets des inférieurs, subalternes. C'est partout comme ça dans le monde spirituel. Ceux qui se sont rebellés, bien sûr, se sont écartés de cette soumission, de cette autorité. Et en fait, ils sont devenus donc diables et démons. Maintenant, revenons dans le monde visible. Dans le monde visible, on a partout des autorités. Les gouvernements représentent des autorités. Mais il n'y a pas seulement que le gouvernement qui est une autorité dans la société. Vous allez trouver que dans l'église, il y a aussi des autorités. On parle de l'autorité pastorale à juste titre. Dans la famille, il y a aussi l'autorité. Le père est supposé représenter l'autorité de la famille. La maman aussi représente une autorité qui est sous l'autorité du père. On va en parler. Au travail, nous avons affaire à des autorités. Il y a des gens qui dirigent. Peut-être vous êtes le boss de votre propre société. Donc vous êtes à la tête. Ou alors peut-être que vous êtes directeur. Ou peut-être que vous êtes responsable d'un département dans votre société. Dans l'église, nous avons des gens qui sont responsables de département, donc ils sont leaders quelque part. Vous êtes peut-être enseignant dans une école. Vous avez donc une position de leadership. Vous Vous êtes peut-être grand frère, grande sœur d'une famille où papa et maman sont morts. Vous êtes un leader quelque part. Vous êtes peut-être directeur d'une école, vous êtes un leader quelque part.
Vous
voyez, partout il y a un système de leadership. Et c'est la Bible nous montre que c'est Dieu qui a voulu ça. Jésus est la tête de l'église. Donc partout il y a un système. Leadership. Ceux qui dirigent. Et ceux qui suivent. Pourquoi Dieu a voulu ça? Dans ce monde, au départ, il devait y avoir qu'un seul pays, entre guillemets, une seule nation. D'Adam et Ève,
Adam na Eva,
Dieu voulait qu'il y ait une seule nation qui serve Dieu. Leurs descendants, avec eux bien sûr. Nous savons qu'Adam et Ève ont péché. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a deux groupes qui vont émerger. Les enfants de Dieu et ceux qui se sont rebellés contre Dieu, qui refusaient de servir Dieu et qui ont servi le diable. Donc il y a deux nations, deux peuples qui se sont séparés entre guillemets. Ceux qui ont servi Dieu et ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Et un jour il y a eu un événement que vous trouverez dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Là, la tour de Babel, il va y avoir les hommes qui se sont tous mis ensemble, en grande majorité en tout cas. Ils parlaient une seule langue. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Commencer à se rebeller contre Dieu. Et Dieu va faire une chose.
Il
va confondre leur langage. C'est de là où va naître les nations. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il y ait une nation qui est pour leader uniquement des gens qui ne le servaient pas. Sinon, ceux qui auraient voulu le servir aura été persécuté et éradiqué de la terre. Et c'est pour ça que Dieu, au travers de Paul dans Romains 13, nous dit qu'il y a des autorités qui ont été placées. En fait, il y a un système de leadership, de gouvernement qui a été placé. Pourquoi faire? Pour limiter le péché sur la terre. C'est ce que Paul décrit ici. Paul, en gros, dit il y a dans les nations des lois. Et ces lois, c'est quand même en partie pour protéger les citoyens. Elles sont imparfaites avec des gens imparfaits. Mais c'est quand même pour protéger les gens. Quand dans une nation vous n'avez aucune loi, c'est ce qu'on appelle l'anarchie. L'anarchie, ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi comme il le veut, sur n'importe qui. Il arrive, il rencontre quelqu'un, il dit: toi j'ai envie de te tuer, je te tue, voilà. J'ai envie de te piller, je te pille. J'ai envie de faire n'importe quoi sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, et je le fais. Et personne ne dit rien, et les gens font des choses comme ça les uns sur les autres. C'est ce qu'on voit dans les guerres civiles, etc., etc. Mais s'il n'y avait aucun gouvernement, ça se passerait tout le temps partout, donc ça serait une catastrophe sur la terre. Donc Dieu a voulu limiter le péché au travers d'un nombre de lois et au travers de gouvernements. Limiter le mal pour pas que ça aille trop loin. Alors maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet à propos du leadership, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des positions de leader. Alors, ils cherchent souvent, ils se bagarrent pour être en haut. Des fois, ils sont dans des positions de leader sans vraiment avoir choisi. Par exemple, ils se retrouvent l'aîné de la famille et ils doivent s'occuper de la famille. D'autres fois, ils sont fils de grands personnages qui ont légué de grandes fortunes. Et il va falloir qu'ils s'occupent de tout ça. Alors, c'est bien d'être leader. C'est bien d'avoir postulé pour un poste de direction. Mais ça va aussi impliquer des responsabilités. Beaucoup de gens veulent être leader, mais ne comprennent pas qu'il y a des responsabilités qui leur incombent.
Hein.
Et ce matin, à propos du leadership, on va parler du respect. Je vais vous montrer les idées préconçues que les gens ont et que les chrétiens ont à propos du respect. Il faut que vous sachiez une chose. Si vous êtes leader, et vous allez avoir des gens qui vont vous suivre, que vous allez diriger. Et les gens ne suivent pas un leader par accident. Des fois, ils le suivent par force parce qu'ils sont obligés. Mais on verra que c'est un très mauvais modèle de leadership. La plupart du temps, les gens suivent un leader par choix. Parce que ce leader sait comment faire. Et quand ils le suivent par choix, ils vont le suivre très longtemps. Quelle que soit votre position de leadership, si vous êtes sage et intelligent et vous suivez les règles de la parole de Dieu que nous allons étudier, vous pourrez aller très loin et très haut. Si vous ne suivez pas ces principes, vous aurez beaucoup de problèmes. Par exemple, si vous dirigez une entreprise et vous utilisez les principes de leadership que je vais vous montrer, vous pourrez aller très très loin avec votre entreprise. Par contre, si vous ne suivez pas ces principes, bon, vous aurez des employés qui auront l'air de vous respecter, mais finalement, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses que vous êtes en train de creuser près de vous, c'est-à-dire que ce sont des gros trous. Alors regardons donc les idées préconçues sur le respect. Souvent les gens pensent qu'ils doivent être respectés parce qu'ils sont dans une position. Ça, c'est vraiment une idée préconçue. On doit me respecter parce que je suis le patron. On doit me respecter parce que je suis le directeur. On doit me respecter parce que je suis le mari. Certains pasteurs disent on doit me respecter parce que je suis le pasteur. Ça, c'est penser petit. Ce sont des gens qui ne comprennent pas les lois du respect. Et il y avait comme ça quelqu'un qui a mis tout son avenir en l'air. Dans 2 Chroniques, chapitre 10, nous avons l'histoire d'un jeune homme qui avait cette mentalité-là et qui s'est complètement trompé. Complètement trompé. 2 Chroniques chapitre 10. Nous avons l'histoire du fils de Salomon qui s'appelait Roboam. Et Roboam, c'était donc le fils de Salomon. Il devait prendre la succession de Salomon et il a pris la succession de Salomon. Donc il s'est retrouvé dans une position de leadership, c'est-à-dire à diriger le peuple d'Israël. Et il va faire des erreurs immenses. Ce qui va l'amener d'ailleurs à avoir une division dans son pays. Il va être d'ailleurs l'instrument d'une prophétie que Dieu avait donnée. Donc Roboam prend le pouvoir, normal, il n'y a pas de problème. Et il y a donc le peuple, des gens envoyés du peuple qui vont vers lui. Et ils lui disent, tu sais, ton père nous a vraiment rendu la vie difficile. Toi, tu prends le pouvoir et tu sais, il faut que tu allèges le joug que ton père nous a donné à la fin de sa vie parce que ça n'allait plus bien.
Et Roboam
a dit, écoutez, revenez dans 3 jours. Bon, il va voir, il prend conseil avec les anciens qui avaient travaillé avec son père. Et ses anciens vont lui donner un sage conseil. Verset 6, donc de 2 Chroniques 10, il est dit, le roi Roboam prit conseil des anciens qui s'étaient tenus auprès de son père Salomon pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple ? Ils lui adressèrent ces paroles en ces termes. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, si tu leur parles avec bonté, ils seront pour toujours tes serviteurs.
Donc,
c'était un sage conseil qui en fait montrait à Roboam, fais attention, peut-être roi en position. Mais mon garçon, il y a un peuple là qui est mécontent. Alors tu as plutôt intérêt à agir avec sagesse. Et c'est pas ta position qui va déterminer ce que tu vas pouvoir faire comme ça si tu as envie de faire telle ou telle chose avec le peuple. Il va falloir que tu comprennes un certain nombre de principes. C'est en fait ce que les anciens lui enseignaient
ici.
Et on s'aperçoit d'une chose. Le texte nous le dit, Roboam ne va pas du tout tenir compte de ses conseils. Roboam va écouter les petits genoux là, sans expérience, qui parlent beaucoup et qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Et
il
leur pose la même question.
Eh
les gars, là, vous savez, on a grandi ensemble, on a fait des bêtises ensemble. Hein. Le peuple me dit ça. Et vous, qu'est-ce que vous me conseillez d'être? De faire.
Ah
bah, Roboam, c'est simple.
C'est
toi le boss maintenant. Tu leur dis, eh bien écoute, tu vas alourdir ce joug.
Sois
dur.
Montre-toi fort.
Et Roboam va suivre les conseils stupides de ces jeunes. Parce que Roboam n'avait pas compris que le respect, c'est pas quelque chose qui est dû. Comme nous allons voir, c'est quelque chose qui se gagne. Et Roboam lui disait, je suis le roi. Donc je pourrais faire ce que je voudrais avec ce peuple. Il a fait ça et il s'est retrouvé avec plein de problèmes. Le leadership, c'est pas une position. Vous n'aurez jamais le respect des gens parce que vous êtes monsieur, madame le directeur, monsieur, madame le boss. Si vous raisonnez comme ça et que vous pensez que les autres vont vous respecter, croyez-moi qu'ils feront semblant de vous respecter. Et le jour où il y aura un problème, vous saurez qui vous respecte vraiment. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce genre de logique qui est fausse. J'ai la position, donc on me doit le respect. Alors, une autre idée préconçue, c'est que le respect, c'est dû à un titre. Donc, il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ont un titre de représentant, d'enseignant, de pasteur, alors tout le monde me doit le respect. C'est faux aussi. Il y en a d'autres qui pensent que c'est une question d'homme, d'arrière-plan, si vous préférez. Moi, je suis le fils de tel papa, de telle famille, donc attention. Toi, là, tu me dois le respect. Ça, c'est une idée préconçue aussi qui est fausse. Beaucoup de gens se font des illusions. Ils pensent qu'on va les respecter parce qu'ils sont fils ou filles d'un tel. Ce sont des idées préconçues qu'on trouve un peu partout. Des gens qui pensent parce qu'ils ont de l'argent qu'ils vont être respectés. Non, tu seras respecté sur la forme. Mais pas sur le fond. Rappelez-vous du fils prodigue. La semaine dernière, il y a une leçon sur le fils prodigue. Oh, au début, le fils prodigue, on le respectait. Ah, il avait des sous. Beaucoup de suiveurs, beaucoup de copains. Mais ça, c'était la façade. Vous savez tous que quand son argent s'est arrêté, les gens lui ont dit, ah, oh, tu sais, moi, je ne te connais pas. T'es qui, toi ? Vous voyez, ça c'est du respect, un faux respect. Nous sommes en train de parler de choses profondes. Des racines qui se trouvent souvent dans le cœur des gens, dans la tête des gens. En fait, vous allez découvrir une chose. Le respect va dépendre de notre façon de diriger. Quoi que tu diriges, qui tu diriges. Tu as des gens sous ta responsabilité. Et il va falloir que tu gagnes le respect. Vous voyez, quand un leader a de l'influence, ceux qu'il suivent, donc les suiveurs, juste commencent à le suivre. Donc, quand quelqu'un, par exemple, commence à avoir de l'influence pour différentes raisons, parce qu'il est doué, parce qu'il fait des choses, il y a des gens qui commencent à le suivre. Par contre, quand un leader a gagné le respect, les gens continuent à le suivre. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui est élu, s'il fait un bon boulot, les gens voient les fruits de son travail et continueront à le suivre. Un parlementaire sera réélu facilement s'il a fait du bon boulot. Un président, un représentant légal de l'association, ou tous ceux qui sont en position de leadership et qui se font voter. Pourquoi ? Parce que les gens ont vu quelque chose et commencent à avoir du respect parce que cette personne les a bien dirigés. Vous voyez, il y a tellement d'idées préconçues sur le respect. Donc quand un leader commence à influencer, les gens commencent à suivre. Un leader commence à bouger, il commence à se lever. C'est la même chose qu'on voit dans des églises. Il y a des fois des gens qui arrivent, ils ont un bon message, ils prêchent bien, mais ils ont des problèmes de caractère importants. Alors au début, les gens le suivent. Et si jamais il a un problème personnel qui arrive et qui n'a pas bien construit son respect, que les gens ne le respectent pas réellement, pas à cause de sa position mais à cause du travail qu'il leur a fait, et bien les gens au bout d'un moment partiront. Alors comment gagner le respect des autres? Tu es leader. Tu comprends que le vrai respect, ce n'est pas quelque chose qu'on te doit, mais quelque chose que tu gagnes. Donc il faut que tu apprennes à gagner le respect. Je te dis, si les gens te respectent à cause de ta position, de ton titre ou de qui tu es, c'est un faux respect.
Ce
n'est pas un respect selon la parole de Dieu. Par contre, si les gens te respectent parce que tu es un bon leader, c'est parce qu'ils auront fait de la route avec toi et ils auront vu les fruits que tu portes. Et à ce moment-là, ils vont te suivre. Par exemple, un bon enseignant. On a tous eu des bons profs et des mauvais profs, vous avez remarqué ça. Des gens qui vous ont dégoûté à vie de certaines matières. Et d'autres gens qui vous ont fait aimer des matières que vous n'aimiez pas forcément. Un enseignant qui a eu une bonne influence sur vous. ou une personne qui a une bonne influence sur vous, qui a construit des choses dans votre vie. Ces gens-là, on s'en rappelle. Quelqu'un qui vous a appris à jouer à certains sports, ou à de certains instruments de musique, ou de certaines choses en fait, qui vous a aidé à faire quelque chose et à développer votre
vie.
Ça, c'est des gens qui marquent notre vie. C'est souvent ce qu'on appelle un mentor. J'ai pas dit un menteur, j'ai dit un mentor. Quelqu'un qui vous aide à découvrir et vous aider à aller de l'avant. Alors comment faire pour gagner le respect des autres? Vous êtes là, vous êtes à un poste. Vous avez des élèves devant vous, des étudiants devant vous. Vous êtes mari. Vous êtes nommé directeur dans un endroit. Vous vous retrouvez comme ça dans une position de leadership. Vous comprenez que les gens vont faussement vous respecter si vous n'avez rien fait. Par contre, comment est-ce que vous pouvez gagner leur respect? D'abord, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Quand vous dirigez des gens, si ils sentent que vous les méprisez, vous n'aurez jamais leur respect. Si tu méprises ceux qui te servent, ceux que tu diriges, jamais ils ne te respecteront. Pourquoi? Parce qu'ils sentiront quelque chose en toi. Et on le verra d'ailleurs ça. On verra quand les gens ne se sentent pas aimés, on n'arrive pas à sortir le meilleur d'eux. Parce que c'est clair, quand nous sommes leaders, nous dirigeons des gens et on va quelque part avec eux, on les amène quelque part. Si par exemple tu es directeur d'un département d'une société, si tu es là pour le salaire, pour la signature, pour la belle maison et le joli costume et les petites courbes, t'as tout
faux.
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans les quartiers qui veulent devenir pasteurs. Vous savez pas pourquoi? Parce qu'ils veulent se promener avec un beau costume et qu'on leur fasse des petites courbettes en disant bonjour pasteur. C'est des gens qui n'ont rien compris. C'est pas le leadership ça. C'est vraiment de la farce. Ce sont vraiment des gens qui ne comprennent rien à rien. Si tu ne respectes pas ceux que tu diriges, eh bien, tu ne verras rien se produire, tu ne pourras pas les diriger. Les gens ne te suivront pas. Ils te feront tous les sales coups possibles et imaginables. Parce qu'ils sentent que tu ne les respectes pas. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir faire du chemin avec eux et les amener beaucoup plus loin que ce qu'ils peuvent penser ou imaginer. Tu diriges des gens, c'est toi qui vas amener la barque quelque part, c'est toi qui amènes les autres. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision et qui amène les autres avec lui quelque part. Ceux qui n'amènent personne ou qui amènent des gens nulle part, ce ne sont pas des leaders. Un leader amène les gens qui le suivent quelque part à réaliser des choses. Et les gens voient qu'au travers du leadership de cette personne, les gens se disent, waouh, depuis que celui-ci est entré dans la société là, qui dirige tel département, ça marche bien. Depuis que cette personne dirige notre établissement, vraiment, il y a beaucoup de changements, c'est de mieux en mieux. Depuis qu'il y a ce pasteur qui est que là vraiment ça il y a quelque chose qui se passe.
Ati kuva ujya mu pastor aje hajya hari ibintu bikoreka ibintu birahinduka.
Depuis que celui-ci a pris la direction du groupe de maison, vraiment on sent qu'il y a quelque chose qui se passe.
Ati kuva ujya mu ntayoboye umugwa amasengesho hari ikintu gikoreka.
On fait des choses intéressantes, on va quelque part.
Ara hantu turiko turaje hari ibintu byiza bikoreka.
Si tu es leader et que tu fais tourner les autres en rond, tu as intérêt à changer.
Uru murongozi ukagumiza abantu handi nyene
ne bizako hari. Ils ne respecteront jamais, au contraire, ils te critiqueront.
Nibazo kuba uzosanga barakora kuvuga nabi nyabuna.
Fais attention à cela.
Ivyo nuko bigabako.
Ensuite, c'est quelqu'un de conviction. Vous devez être quelqu'un de conviction. C'est-à-dire croire dans ce que vous faites, dans votre vision. Vous avez la vision de faire quelque chose, donc vous allez jusqu'au bout et vous y croyez. Vous croyez que le Seigneur vous a vraiment mis là et que vous allez accomplir quelque chose au travers du Seigneur.
Vous
voyez, quelqu'un qui n'était pas de conviction, c'était le roi Saül. Le roi Saül, c'était pas quelqu'un de conviction, il savait pas ce qu'il voulait. Il était roi, ah, très bien, je suis roi. Oui, mais il emmenait les autres nulle part. David a eu du succès parce que c'était un leader et il emmenait les autres quelque part. C'est à toi de faire du chemin à ceux qui te suivent. De les amener quelque part. Et beaucoup plus loin que ce qu'ils pourraient imaginer. Crois-moi, quand tu leur as fait beaucoup de chemin, ils seront ultra contents. Et tu gagnes en respect. Alors aussi quelque chose d'important pour un leader, c'est la maturité et la sécurité. Vous savez, le leadership, ça ne s'apprend pas dans des livres, ça se pratique. On apprend les principes, mais on les pratique. Et il y a beaucoup de leaders qui sont complètement insécures. Des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le leadership. Par exemple, vous avez des pasteurs qui exercent la dictature. Qui forcent les gens à faire un certain nombre de choses et qui empêchent ceux qui ont des dons de s'épanouir. Ou des gens qui sont dans le business qui ne se sentent pas sécurisés. Parce qu'en fait, ils n'ont pas maturé dans leur leadership. Ils voient tout le monde comme des concurrents. Mais si t'es le meilleur leader, c'est toi qui seras toujours au-dessus. Si c'est toi qui as toujours les meilleures idées, c'est toi qui avanceras plus vite que les autres. Et à la limite, tu pourras être fier d'avoir inspiré d'autres personnes. Même s'ils essayent de t'imiter, ils n'arriveront pas à ton niveau. Parce que tu es vers l'excellence. Tu vas vers l'excellence. Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la médiocrité. Et beaucoup de gens qui sont dans un certain leadership et qui sont chrétiens, qui sont médiocres. Ils ne se perfectionnent en rien. Vous les retrouvez, vous les voyez 5 ans plus tôt, vous les voyez aujourd'hui, ils sont toujours dans la médiocrité. Qu'il y ait un temps où nous soyons médiocres, c'est normal. Mais nous devons travailler vers l'excellence. Nous devons travailler vers le perfectionnement. Nous devons travailler à toujours vouloir aller plus haut. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne réussissent pas. Et là, je vous garantis, si vous êtes leader et que vous échouez partout où vous allez, c'est que vous avez un problème quelque part. Ça, c'est un point important au niveau de gagner du respect. Tu gagneras du respect quand les autres vont voir que tu es leader et que tu réussis dans ce que tu fais. Moi, je le vois bien dans l'église. Je suis très observateur. Il y a des gens, des fois, on sait qu'ils se posent beaucoup de questions. Et ils demandent, tiens, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va réussir à faire ça? Il y a beaucoup de gens qui se demandent à propos des parcelles, bâtiments, tout ça, où est-ce qu'on va aller? Et vous verrez, quand ils vont voir qu'on va commencer à construire, les gens vont dire, ah, c'est vrai, alors finalement, on a réussi.
Et
les gens, vous savez que les gens prennent plus confiance dans une église quand elle devient propriétaire et qu'elle a donc son bâtiment qu'une église qui fait beaucoup de bruit et qui est sous des tôles et avec des matétés ou qui est dans des locations interminables. Alors une autre chose que vous devez savoir, si vous êtes leader,
il
faut que vous appreniez une chose,
à
contribuer au succès des autres.
Si tu es
leader, c'est toi qui diriges, tu amènes les autres quelque part, mais ceux qui te suivent, parmi certains
cela,
il y a des gens qui ont des dons et des gens qui voudront faire des choses de leur vie aussi et un jour qui seront des leaders. Un bon leader a d'abord été un bon suiveur, puis il a eu quelqu'un qui l'a peut-être repéré et qui s'est occupé de lui et qui a essayé de faire sortir le meilleur de lui, et au bout de quelques années vous voyez cette personne qui vole de ses propres ailes. Et cette personne vole tellement bien que finalement elle a bien avancé dans la vie, et à chaque fois qu'elle pense à vous, elle dira: ah, celui-ci c'était mon papa, celui-ci c'était vraiment ma maman. Pourquoi? Parce que cette personne a contribué au succès de l'autre. Et croyez-moi, les personnes qui ont le plus de respect pour un leader, ce sont les personnes qui ont réussi parce que le leader les a aidés à réussir. Ça, je vous garantis, des gens que vous aidez à réussir dans la vie vous respecteront immensément. Ils n'oseront jamais rien dire sur vous.
Ils
diront: non, non, celui-ci, vraiment, ou celle-là, vraiment. Je lui dois ce que je suis aujourd'hui. Et croyez-moi, quand vous avez de telles réflexions de la part de certaines personnes, ça prouve que ces gens-là vous respectent immensément. La dernière chose que vous devez savoir, c'est que vous devez pleinement réaliser que ce respect se gagne. Si vous êtes un leader faible, un père qui ne réussit pas dans votre foyer, un directeur véreux qui a que des problèmes et qu'on change régulièrement parce qu'il n'est pas capable, il ne s'en sort pas, ça veut dire que vous êtes un leader faible. Et une des caractéristiques du leader faible, c'est celui qui pense que le respect lui est dû. Par contre, un bon leader sait qu'il doit travailler pour gagner le respect. Alors il y a une question qui se pose. La plupart d'entre nous ici, nous dirigeons quelque part. Nous dirigeons peut-être notre foyer. Nous sommes responsables de gens peut-être à notre boulot. Nous pouvons être dans l'enseignement. Nous pouvons être dans certains différents domaines à plus ou moins grande échelle au niveau leadership. Est-ce que tu es encore du style à ce qu'on te doit le respect? Ou est-ce que tu vas comprendre que tu dois travailler pour gagner ce respect, que ces gens qui sont là, que tu diriges, tu dois travailler dur jusqu'à t'en implanter des choses en eux. Vous savez, gagner le respect des gens, cela prend du temps. C'est pour ça que les gens se bagarrent pour les positions, parce qu'ils pensent que justement ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent directement des autres. Il y a une chose que les gens qui vous suivront regarderont toujours, et ça se révélera avec le temps. La première chose, c'est de voir si vous les aimez ou pas.
Et
ça, c'est le problème de beaucoup de leaders. Si tu diriges quelque part, il faut que tu aimes les gens que tu diriges. Il faut que tu désires le meilleur d'eux. Que vraiment tu veuilles qu'ils puissent produire le meilleur. Que tu veux le meilleur pour leur propre vie. Si les personnes que tu diriges ne sentent pas cela, franchement, c'est terrible.
Vous
voyez, c'est comme les enfants. Si vous avez un gamin qui a du mal à l'école, vous pouvez avoir différentes attitudes. Le gamin arrive avec ses notes là. Évidemment, en général, ils font comme certains de nos gamins. Papa, j'ai eu un 12. Ah oui, aussi, je voulais te dire, j'ai eu aussi un 10. Hein.
Oh,
j'ai eu aussi d'autres notes, mais ce n'est pas très important. Oui, mais je veux savoir. Attends, je ne sais plus où j'ai mis ça. Je pense que ça doit être dans la chambre, mais il faut que je recherche. Mais je sais plus si j'ai... Finalement, je ne sais pas si j'ai ramené ça de l'école. Et vous savez que le môme, il a eu 5, 6, 3, 2, 0. Enfin, le reste, c'est catastrophique. Alors, si tu as affaire à cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux avoir deux attitudes vis-à-vis de ton enfant. Soit tu prends le bâton, et à chaque point en dessous de la moyenne, tu frappes. En disant, t'es qu'un pauvre imbécile. T'es incapable de faire quoi que ce soit. Et en fait, tu le frappes. Et certains d'entre nous, on a subi ça de nos parents. Qu'est-ce que ça a créé en nous? Un esprit rebelle. Par contre, si votre enfant, vous le prenez en lui disant, tu sais, je ne suis pas content de toi. Parce que tu es capable de faire beaucoup mieux que ça. Et je vais te donner les moyens de réussir. Parce que je t'aime. Mais je te punis. Parce que vous savez, quand vous dites à un enfant, oh, je t'aime, bon, tu as mal travaillé à l'école, mais je t'aime. Le gamin, il va penser une chose. Je passe à côté de la punition. Les gosses réagissent comme ça, c'est normal. Et en fait, c'est faux. Punir un enfant, c'est tout à fait biblique d'ailleurs. Reprendre ton enfant, c'est normal. Mais ton enfant va se réveiller seulement pour comment? S'il sent que tu l'aimes. S'il sent que tu le veux du bien. C'est la même chose pour des employés. C'est la même chose pour n'importe qui que nous dirigeons. Reprendre, oui, nous devons corriger. C'est clair. Mais nous devons chercher le meilleur d'une personne. Quand une personne sent qu'on veut faire sortir le meilleur d'elle-même, alors la personne sent qu'elle est aimée quelque part. Et franchement, elle vous suivra beaucoup plus facilement et avec un bon cœur. Mais ça, ça se verra au fil du temps. Pour gagner respect aussi, maintenant la deuxième chose, c'est être un investisseur et non pas un preneur. Beaucoup de leaders sont des preneurs, des gens qui cherchent toujours à prendre des autres. Vous ne dirigerez jamais quelqu'un si vous êtes en train de le piller, entre guillemets. La personne rapidement en aura assez de votre leadership. Si elle est obligée d'être sous votre leadership, elle souffrira, mais au moment où elle pourra s'en dégager, elle s'en dégagera directement. C'est apprendre à encourager quelqu'un. Investir dans la personne. Chercher là où elle a des capacités et l'aider à développer ses capacités. Mettre vos ressources que vous connaissez, parfois des moyens aussi financiers, pour que cette personne puisse sortir le meilleur d'elle-même. Et ça prend du temps. Lui montrer, la former, investir en elle. Vous allez me dire oui, mais après elle va partir. Oui, que le Seigneur la bénisse. Si elle fait ça, elle ne gagnera pas beaucoup. Si elle fait ça parce que vraiment, elle ne reconnaît pas ce que vous avez investi en elle, tant pis pour elle. Si elle fait ça, par contre, parce qu'elle va devenir un leader, vous avez fait quelque chose d'excellent. Vous avez formé quelqu'un qui est capable de devenir un bon leader. Là, vous avez vraiment investi dans une personne. Vous avez fait énormément pour cette personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça met du temps. Ensuite, il y a une chose que vous devez apprendre à faire. Si vous dirigez, vous devez être un résolveur de problèmes.
Hein.
Pas un amplificateur de problèmes. Et malheureusement, il y a des leaders qui sont comme ça. Il y a des pères ou des mères qui voient des problèmes dans la famille et qui amplifient les problèmes. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, nous devons apprendre à être des résolveurs de problèmes. Si vous n'êtes pas résolveur de problèmes, c'est dangereux. Vous êtes là, vous dirigez quelque chose dans une société. Il va falloir que vous appreniez à résoudre des problèmes. Non pas à engendrer des conflits ou à multiplier des conflits. Non pas à créer des guerres entre les gens.
Hein.
Mais il va falloir que vous sachiez résoudre des conflits. Résoudre des problèmes. Et ceci demande vraiment de l'expertise. Parce qu'au début, on ne sait pas tout ça. Donc le respect, ça se gagne. Alors, je voudrais terminer par une chose. Par un texte de la première épître à Timothée. Et là, je vais vous montrer quelque chose qu'il ne faut jamais faire si vous êtes une dame. Sinon, vous allez faire du mal à vos enfants. La première épître à Timothée, au chapitre 2. Paul va nous parler à propos du couple. Et souvent, malheureusement, ce texte a été interprété n'importe comment. On va lire ensemble à partir du verset 11. Paul dit que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite.
Umugore ku mirongo wa 11 Timoteo wa mbere gice cya kabiri umugore yige atekereje agamburuka gose ariko sinkundira umugore ko yigisha canke ko aganza umugabo ariko atekereze kuko Adam ari we yabanje kuremwa hanyuma Eva.
Alors en fait beaucoup de gens ont pris ce verset et ont dit que la femme ne pouvait pas avoir de ministère.
Abantu bafasha amajambo dusomye bagaragaza gusobanura ingene umugore ngo adashobora kwigisha canke ngo aje mu ibango ry'igikwa
cy'Imana. Et c'est complètement faux, ce verset ne parle pas de l'église, du contexte du ministère du tout. Mais parle du contexte de la famille. Littéralement, dans le grec, je ne permets pas à la femme mariée d'enseigner ni de prendre autorité sur le mari. Vous savez, la cellule familiale, c'est la cellule de base de la société. Si la cellule familiale est détruite, la société se détruit. Donc c'est pour ça que c'est très important, en tout cas nous en tant que chrétiens, de faire attention sur quoi nous construisons. Parce que souvent nous ne sommes pas prévenus de certaines choses. Alors ici Paul prévient que dans le cadre du foyer, la femme ne doit pas prendre autorité sur le mari. Pourquoi ? Parce que cela crée beaucoup de problèmes au niveau de la famille. Si la femme commence à prendre autorité devant les enfants, littéralement, le mot autorité, c'est dominer sur. Prendre autorité, c'est dominer sur. sûre. C'est-à-dire la femme dans le foyer qui domine sur son mari. Et en fait, si une femme fait ça ouvertement devant ses enfants, elle va donner l'image de la rébellion à ses enfants vis-à-vis de l'autorité paternelle. Et croyez-moi, j'ai vu certaines femmes faire ça et ça a détruit certains de leurs enfants qui ont développé tout de suite un esprit rebelle et qui justement après à l'adolescence passaient une adolescence qui était très perturbée et l'âge adulte très perturbé aussi. Donc il faut faire attention parce qu'il y a des choses où les gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Quand quelqu'un prend une position d'autorité et fait n'importe quoi avec, c'est destructif pour les suiveurs. Si vous contestez par exemple une autorité qui est au-dessus de vous avec vos collègues, faites attention, ça peut être très dangereux. Par exemple aussi ce qu'on voit souvent dans les églises, on voit des gens qui amènent d'autres au Seigneur et qui critiquent auprès de nouveaux convertis l'autorité pastorale. C'est très dangereux de critiquer une autorité. On peut avoir certaines opinions, mais faites attention. Si vous faites ça tout de suite devant quelqu'un qui vient de se convertir, vous allez créer des problèmes chez cette personne. Vous allez lui inculquer en elle, alors qu'elle vient de recevoir le Seigneur, une image qui est très mauvaise à propos de l'autorité spirituelle. Donc il faut faire extrêmement attention. Alors ce matin on a parlé de la loi du respect et nous devons tous comprendre que nous sommes soumis à des autorités, mais que quelque part nous sommes obligés d'exercer un leadership. Maintenant, la question qui doit rester en vous, et c'était mon objectif ce matin, quel type de leader es-tu? Quel type de respect cherches-tu? Est-ce que tu as compris ce matin que quoi que tu construises dans ta vie, à partir du moment où tu vas avoir une responsabilité, et c'est bien que des chrétiens aient des responsabilités, il va falloir que tu te comportes selon les lois du royaume de Dieu. Si tu ne fais pas cela, tu auras un leadership catastrophique. Père, merci pour ta parole. Père, nous voulons apprendre à être de bons leaders. Nous voulons apprendre, Seigneur, à gagner le respect envers ceux qui nous suivent, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu veux que nous exercions un bon leadership. Que ce soit un papa à la maison, une maman à la maison, que ce soit quelqu'un qui dirige dans une entreprise, qui enseigne, qui fasse quoi que ce soit, qui travaille dans le gouvernement. Nous voulons, Père Céleste, exercer un leadership qui te ressemble. Nous voulons apprendre à investir chez les autres. Nous voulons apprendre à les aimer. Nous voulons les aider, Seigneur. Père, merci parce que tu nous apprends à être bon leader et à petit à petit gagner le respect de ceux qui nous entourent et qui nous suivent. Merci Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com,
parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi,
toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.